Écoute. Écoute.
Bonjour, je reçois aujourd'hui Laurence Louer, qui est professeure associée à Sciences Po et chercheuse au CERI, le Centre d'études des relations internationales. Elle vient de publier « Sunnites et chiites, une histoire politique d'une discorde » aux éditions du Seuil. Peut-être, Madame Louer, au début, pour situer un peu le problème, quelle est cette grande différence que l'on entend souvent évoquer dans les médias, mais dont l'origine n'est pas vraiment connue par tous, de cette différence dans le monde musulman entre sunnites et chiites? Quelles sont les racines historiques de cette différence?
Alors, au départ, il s'agit d'une querelle de succession. Après la mort de Mahomet, la majorité des musulmans pensaient que Mahomet n'avait pas désigné de successeur et que donc c'était aux compagnons de Mahomet de se consulter entre eux, de négocier entre eux lequel succéderait à Mahomet, ce qui s'est effectivement passé. Donc au fond, le califat, hein, c'est-à-dire le calife, c'est le successeur de Mahomet, au départ c'est une institution oligarchique qui est contrôlée par les plus proches compagnons de Mahomet qui se sont mis d'accord entre eux pour le successeur. Les chiites, en revanche, pensaient que Mahomet avait désigné explicitement son successeur et que ce successeur devait être Ali ben Abi Talib, qui était à la fois son cousin, un très très proche compagnon et l'un vraiment des premiers convertis à l'islam, et aussi son gendre. Il avait épousé la fille de Mahomet, Fatima. Et au-delà de ça, donc au départ une querelle politique, on pourrait dire une querelle de factions, s'est affirmée assez rapidement quand même deux conceptions, se sont affirmées deux conceptions assez différentes du pouvoir politique légitime, puisque les sunnites reconnaissent un calife on pourrait dire que l'institution du califat s'est au fur et à mesure sécularisée, au sens où le calife est un leader politique légitimé par une idéologie religieuse, certes, mais il n'a pas de qualité extraordinaire. Alors que pour les chiites, l'imam, hein, Ali est le premier d'une lignée de 12 imams qui aurait dû succéder directement à Mahomet, était un être extraordinaire qui avait accès à des secrets divins, si vous voulez. Et c'est cette capacité d'avoir accès à des sens cachés du message divin, eh bien, se transmet en fait au sein de sa lignée.
Et alors, comment s'est opérée la première division, les premiers combats? Comment cette différence s'est structurée à la fois de façon religieuse et politique?
Alors politiquement, pendant très longtemps, on peut dire jusqu'au 10e, 11e siècle, des mouvements qui se réclamaient de l'imam Ali, qu'on ne pouvait pas encore vraiment appeler chiite. Donc ces différents mouvements ont quand même représenté la principale force de contestation du califat. Il y a eu de nombreuses guérillas et révoltes chiites, mais qu'on pourrait appeler à cette époque plutôt alites, c'est-à-dire de gens qui se réclamaient, enfin qui se définissaient comme étant des partisans de Ali. Mais en même temps, parallèlement, on constate que notamment à partir du 8e siècle et du 6e imam Ja'far, c'est quand même opéré un processus de convergence dans les méthodes d'élaboration du droit religieux qui divergent assez peu d'ailleurs de nos jours. Et puis, au fur et à mesure, l'imamat se transforme, si vous voulez, en une sorte d'institution d'enseignement et de guidance religieuse et perd de sa dimension politique, si vous voulez. Et tout ça est parachevé avec la disparition mystérieuse du 12e imam au 9e siècle. Un grand moment fondateur qui a encore des conséquences aujourd'hui, c'est vraiment l'établissement du chiisme comme religion d'État au début du 16e siècle, pas la dynastie safavide, qui construit un empire dans ce qui est, grosso modo, l'Iran d'aujourd'hui. Pourquoi c'est fondateur? D'une part, parce que c'est la première fois que le chiisme devient à son tour une religion officielle. Avant, ce n'était qu'une religion communautaire, puisque les chiites n'avaient pas eu accès au pouvoir politique. Ali ben Abi Talib était devenu le quatrième calife, il avait régné très très peu de temps, et après lui, ses descendants n'ont jamais exercé de pouvoir politique, et la plupart d'entre eux ont même renoncé explicitement au pouvoir politique. Donc, si vous voulez, le sunnisme et le chiisme à ce moment-là deviennent deux religions officielles, c'est-à-dire des religions qui légitiment des États.
Mais au sein des États, c'est ça, c'est
absolument,
ça qui fait la différence.
Tout à fait, c'est ça. Et donc, le chiisme devient une religion officielle. Et en plus, on va dire, la construction étatique safavide, elle se fait en miroir de la construction étatique ottomane. Les deux empires se construisent en miroir l'un de l'autre, les Ottomans se présentant comme les défenseurs du vrai islam sunnite, tandis que les Safavides incarnent...
Et donc, il y a à la fois, en fait, c'est plutôt le politique qui a conduit à une structuration de la différence religieuse. Au départ, c'est une opposition d'État, avec ensuite une structuration de l'opposition religieuse.
La rivalité entre États était déterminante. Elle a énormément fait évoluer le chiisme. Elle a clarifié les doctrines chiites. On voit que c'est vraiment au contact de l'État safavide, déjà qu'une hiérarchie cléricale chiite s'est structurée à on va dire, clarifier oui, les doctrines chiites. Et donc, c'est vrai que le politique a été tout à fait déterminant, aussi bien dans le sunnisme, dans le chiisme d'ailleurs, ça a eu une influence déterminante sur le contenu des doctrines.
Vous écrivez que pourtant, dans ces interactions, sunnites et chiites n'ont pas toujours été en conflit ouvert. Donc, est-ce que vous pensez que ça devient irréversible après le début du XVIe siècle, ou qu'il y a eu toujours, y compris après, des interactions entre les uns et les autres ?
Les interactions ont toujours été présentes et la ligne de clivage est là, mais ce n'est pas pour autant qu'elle dégénère en conflit, si vous voulez. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de processus d'imitation réciproque. Le sixième imam, Jafar al-Sadiq, que je mentionnais, en est un exemple. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec cette figure, c'est que c'est quelqu'un qui décide d'avoir de bonnes relations avec le califat abbasside. Il place ses proches à la cour du calife et essaye de constituer en fait une espèce de groupe de pression, d'influence chiite au cœur du pouvoir. Et ces gens-là auront par la suite un rôle tout à fait déterminant après la disparition du 12e imam dans la perpétuation du chiisme en tant que communauté, en tant que doctrine.
Pouvez-vous revenir sur ce 12e imam, l'imam caché, qui est effectivement un élément important de la discorde entre chiites et sunnites ?
Oui, alors le 12e imam, d'après les chiites, a disparu en 874. D'après les historiens occidentaux, il n'a sans doute jamais existé, il n'est sans doute jamais né. Et donc, depuis cette période, les chiites attendent le retour de cet imam qu'on appelle l'imam attendu ou l'imam caché, qui est censé être présent dans le monde, mais invisible aux hommes. Et son retour doit marquer le règne de la justice, de la vérité. Voilà. Donc, il y a une espèce d'attente messianique comme ça dans le chiisme qu'on ne retrouve pas ou seulement de manière résiduelle dans le sunnisme. Mais ce qui est intéressant dans ce 12e imam, c'est aussi qu'au fond, on voit que l'institution de l'imamat avait énormément perdu de sa légitimité et de son efficacité, et qu'au fond, la disparition du 12e imam est presque une fin logique, si vous voulez, à l'affaiblissement de l'institution de l'imamat.
Mais pendant le règne du Shah d'Iran, cette opposition religieuse était moins marquée entre l'Iran et ses voisins arabes.
Certes, le Shah d'Iran était un autocrate laïque qui a voulu laïciser, moderniser la société iranienne à marche forcée sur le modèle de ce qu'avait fait Atatürk en Turquie des années auparavant. Pour autant, la monarchie Pahlavi, on le sait moins souvent, mais a aussi continué à utiliser le chiisme comme instrument d'influence de l'Iran à l'extérieur de ses frontières. Notamment, le Shah d'Iran finançait les institutions religieuses chiites irakiennes, à la fois pour embêter son voisin irakien avec lequel il y avait des conflits territoriaux, et puis aussi pour affaiblir sa propre hiérarchie religieuse chiite en Iran. Donc tout ça a continué. Et puis, il y avait des dissensions politiques quand même assez grandes, assez importantes entre l'Iran du Shah, de l'Iran monarchique, et puis ses voisins arabes, puisque l'Iran était l'allié principal d'Israël au Moyen-Orient. Et ça, c'était une ligne de fracture importante. Donc même quand, si vous voulez, la dimension religieuse, c'était peut-être un petit peu moins importante, et encore, c'est pas sûr, les options stratégiques et puis cette vieille rivalité arabo-persane était toujours présente.
Vous écrivez que c'est le roi Abdallah de Jordanie qui parle le premier du croissant chiite pour mettre en avant un danger de pays qui viendrait menacer les pays sunnites. Est-ce que là, une fois encore, c'est vraiment ce clivage religieux qui est fondamental, ou est-ce que au-delà, par-delà ou parallèlement à ce clivage religieux, il y a des clivages politiques ?
Ce dont le roi Abdallah de Jordanie avait peur, et ce dont la plupart des dirigeants arabes sunnites ont peur, c'est moins du chiisme que de l'Iran. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, au fond, le chiisme, c'est la religion nationale iranienne. Encore une fois, c'est un outil d'influence de l'Iran à l'extérieur de ses frontières, ce qui est très largement vrai. Et tout chiite, s'il n'est pas iranien, il a quelque chose à voir avec l'Iran, il est un relais de l'influence iranienne, c'est un agent des intérêts iraniens, et donc c'est en cela qu'il faut se méfier du chiisme. Derrière le chiisme, il voit l'Iran. Et au fond, la question religieuse au sens des divergences doctrinales, par exemple, elle est très très largement secondaire par rapport à la perception d'une menace iranienne. Et au fond, on voit que les relations entre sunnites et chiites dans les différents pays se tendent ou se détendent très souvent en fonction de la manière dont la menace iranienne est perçue par les dirigeants arabes.
Donc il y a vraiment un enchevêtrement d'équivages religieux et d'équivages stratégiques ou politiques, alors que très souvent dans les médias on présente cette opposition comme étant principalement, voire uniquement, une guerre de religion.
Non, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la très grande divergence doctrinale, on va dire théologique, entre sunnites et chiites, c'est à propos de l'imamat, la question de l'imamat. Mais l'imam n'est pas là. Il a disparu depuis le 9e siècle, donc cette question, en fait, elle n'est pas du tout centrale, d'ailleurs. Hein. Une deuxième, on va dire, point de crispation religieux pourrait être la pratique de certains rituels chiites que beaucoup de sunnites considèrent comme très choquants. En même temps, il y a beaucoup de ces pratiques de pèlerinage sur les tombes des imams qui sont très très proches de ce que pratiquent les soufis, hein, les musulmans soufis qui sont pour la plupart sunnites et qui pratiquent aussi le culte des saints. Voilà, donc on pourrait dire que c'est les deux points de crispation qui seraient d'ordre strictement religieux. Mais donc derrière tout ça, hein, ce qui fait le plus problème, c'est vraiment les questions politiques et même en Arabie Saoudite. Hein, on voit aussi que ce sont les questions politiques qui contribuent à tendre ou à détendre les relations entre l'État saoudien et sa minorité chiite, puisqu'il y a une minorité chiite en Arabie Saoudite, peut-être autour de 15% de la population, qui est située dans la province Est où il y a les ressources pétrolières du royaume. Donc il y a vraiment une importance stratégique de cette localisation géographique. Et pourtant, on constate que jusqu'en 1979, c'est-à-dire jusqu'à la révolution iranienne, la relation de l'État saoudien wahhabite, donc cette espèce d'ultra-orthodoxie sunnite très très anti-chiite, d'ailleurs très anti-soufi aussi, cet État wahhabite a eu une approche extrêmement pragmatique vis-à-vis de sa population chiite, qui était autorisée à continuer à pratiquer ses rituels religieux. Il y avait des tribunaux religieux chiites, hein, qui n'ont jamais cessé d'exister. Et c'est au fond à partir du moment où la connexion se fait de nouveau entre l'Iran, puissance régionale, qui veut réviser les équilibres entre puissances dans la région, et puis la dimension religieuse se fait, donc vraiment en 79, que les relations deviennent extrêmement compliquées entre la minorité chiite et le pouvoir saoudien.
Et vous écrivez que l'Irak, ce pays clé, est le pays qui est à la frontière entre chiisme et sunnite, avec en même temps, on a vu que pendant la guerre Iran-Irak, les chiites irakiens sont restés quand même du côté de Saddam Hussein, alors que les populations arabes vivant en Iran, elles sont restées pro-iraniennes. Donc on voit encore là que le clivage religieux peut exister, mais que le clivage national est également extrêmement fort et parfois prend le pas sur le clivage religieux.
Oui, parfois il prend le pas, parfois il ne le prend pas. C'est des situations extrêmement variables. Ce qui est important pour comprendre la situation irakienne aujourd'hui, c'est de comprendre que ce pays est vraiment situé sur une ligne de fracture géographique et politique très ancienne entre en fait, l'Empire ottoman et l'Empire safavide, si vous voulez, puisque ce qui est aujourd'hui l'Irak, surtout tout ce qui est au sud de Bagdad, a été une zone très mal contrôlée par l'Empire ottoman, qui a été prise et reprise entre les Ottomans et les Safavides à plusieurs reprises, et où il y avait une très importante population iranienne, et que notamment toute la hiérarchie supérieure du clergé chiite résidant dans ce qui n'était pas encore l'Irak, donc hein, au sud de la Mésopotamie, ils étaient iraniens, si vous voulez. Et on retrouve hein, cette interaction, cette interpénétration aujourd'hui dans une partie du clergé chiite irakien. L'ayatollah Sistani, par exemple, n'est pas irakien de nationalité. Il est citoyen iranien, il a toujours refusé de prendre la citoyenneté irakienne, même quand des pressions ont été exercées sur lui après la chute de Saddam Hussein. Donc on voit bien que comment cette figure tutélaire du chiisme irakien est en fait un citoyen iranien qui réside là depuis plus de 60 ans. Mais donc on voit bien que là, la question nationale n'est pas si importante que ça, vous voyez. Et puis c'est vrai que durant la guerre Iran-Irak, alors que l'ayatollah Khomeini escomptait que la majorité des soldats de l'armée irakienne étant chiites, eh bien, il y aurait beaucoup de soldats qui basculeraient dans le camp de la révolution islamique. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui montrait bien qu'en effet, dans ce conflit territorial, c'est bien les allégeances, enfin les allégeances nationales, les identités nationales qui ont dicté les allégeances politiques, alors même que la minorité chiite avait quand même été victime déjà de massacres de masse, de discrimination depuis plusieurs décennies.
Et vous écrivez dans votre livre que les sunnites irakiens, qui ont donc dominé le pays avec, en représentant moins de 20% de la population du temps de Saddam Hussein, environ 17% de la population, mais qu'ils se sont révélés sunnites une fois qu'ils ont perdu le pouvoir et qu'ils ont retrouvé un statut de minorité dans leur propre pays, alors qu'auparavant, ils n'avaient pas conscience, écrivez-vous, qu'ils étaient sunnites, du moins le mettaient-ils pas en avant.
Tout à fait. Alors ça, c'est l'analyse très fine d'un auteur qui s'appelle Fanar Haddad, qui donc analyse ces tensions confessionnelles en Irak et qui montre très bien dans une logique qu'on retrouve partout finalement. C'est que les gens qui sont majoritaires d'une manière générale ne perçoivent jamais leur spécificité. C'est toujours les autres qui sont différents. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en Irak, mais aussi dans d'autres minorités sunnites, dans d'autres pays, à Bahreïn par exemple. En Iran aussi, les sunnites, même quand ils sont en situation de minorité arithmétique, si vous voulez, dans un contexte national spécifique, ne se perçoivent que rarement en tant que minorité et se structurent rarement en tant que minorité, car ils s'imaginent comme faisant partie de la majorité des musulmans, en effet, puisque 90% des musulmans sont sunnites, et ils ont énormément de mal à se structurer en communauté, c'est-à-dire vraiment à s'organiser en communauté minoritaire, alors que les chiites font ça très bien.
Et au Pakistan, le fondateur du régime, Jinnah, et puis celui qui en a été, qui a incarné, et qui a d'ailleurs donné à ce pays l'arme nucléaire, Bhutto, était en fait chiite, sans faire leur coming out, sans le dire publiquement. C'est quand même une situation très particulière.
Oui, hein, c'est-à-dire qu'au fond, c'est...
Dans un pays où les sunnites sont majoritaires.
Ils sont très largement majoritaires et où, au fond, l'idéologie nationale pakistanaise, au départ, était fondée sur ce qu'on appelle un nationalisme musulman, où l'islam était conçu comme une appartenance nationale, aveugle aux différences doctrinales, notamment. Et donc, le fait que le père de la nation était chiite ne posait pas de problème dans cette perspective, mais sur le plan symbolique, quand il a fallu l'enterrer et lui faire des funérailles, il a été impossible de l'enterrer publiquement selon les rites funéraires chiites, car, encore une fois, spontanément, on va dire, les Pakistanais représentaient cet islam national générique comme étant de l'islam sunnite.
Qui fait partie de l'identité, qui est le fondement même de ce pays. Il y a aujourd'hui à Bahreïn toujours une situation très incertaine avec une répression et là aussi les opposants au régime dont vous expliquez dans votre livre qu'ils protestent surtout contre des conditions sociales dégradées, minoritaires, discriminées, mais sont vus comme le bras armé de l'Iran et que donc il y a eu une répression sur laquelle d'ailleurs les Occidentaux ont quand même jeté un voile pour le moins pudique, mais que donc là une fois encore il y a la question religieuse qui vient couvrir ou occulter la question sociale.
Non, la question religieuse, on pourrait dire à Bahreïn, elle s'emboîte, elle est vraiment liée, elle est imbriquée avec d'autres types de polarisation, on pourrait dire, puisque il y a notamment cette très vieille polarisation qui est vraiment constitutive de l'État entre les conquérants et les conquis, puisque la famille royale sunnite a en fait conquis l'archipel à la fin du XVIIIe siècle, et il semble que la majorité des habitants de l'archipel étaient chiites, si vous voulez, et la famille royale et puis leurs alliés tribaux qui étaient tous sunnites ont instauré un espèce de système féodal basé sur la grande propriété terrienne dans lequel les grands propriétaires terriens étaient des sunnites et puis les chiites étaient réduits à l'état de paysans devant louer leurs terres dans des conditions assez iniques. Et donc, en fait, cet antagonisme, si vous voulez, qui a été reconstruit et très largement aussi instrumentalisé par l'opposition islamiste chiite, au fond, elle explique aussi la très grande polarisation entre sunnites et chiites au Bahreïn. Et puis évidemment, à partir des années, on va dire, 70-80, quand les islamistes chiites sont devenus la principale force d'opposition au régime des El Khalifa, le clivage s'est de nouveau renforcé. avec là une dimension vraiment spécifiquement religieuse et avec un discours de l'opposition qui consistait à dire bon, ce régime n'est pas vraiment islamique, donc il faut le remplacer par un régime vraiment islamique, mais en plus c'est un régime qui est étranger, hein, qui est allogène, si vous voulez, à l'ordre social authentique qui devrait être un ordre chiite.
Autre pays dans lequel ce clivage produit un état à la fois politique, sanitaire, humanitaire, catastrophique, le Yémen, avec là aussi les accusations d'interférence de l'Iran à travers les Houthis.
Oui, alors le Yémen, c'est un cas tout à fait fascinant parce que on a pris l'habitude, à tort à mon sens, de décrire les Zaydites, hein, et donc le mouvement Houthi qui en émane, comme étant des chiites, alors même que cette affirmation n'est pas du tout évidente, hein, puisque donc le Yémen, est, grosso modo, il y a deux grandes communautés religieuses, les zaïdites d'un côté qui sont plutôt au nord, et puis les musulmans sunnites chaféites qui sont aussi au nord, et puis après surtout au sud. C'est un pays qui a été dominé depuis plus de 1000 ans, enfin jusqu'aux années 60, par un imamat zaïdite, donc un régime politique spécifique dirigé par une figure qui était à la fois un savant religieux et un guerrier, hein, censé défendre la vraie foi. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a eu un processus de convergence entre zaïdisme et entre sunnisme, vraiment orchestré par les autorités politiques qui avaient perdu de leur légitimité religieuse et qui voulaient au fond créer une espèce d'islam générique où sunnites et puis zaïdites pourraient se retrouver. Et ce processus de convergence, en fait, s'est accéléré avec l'établissement de la République arabe du Nord Yémen dans les années 1960. Et c'est au fond assez récemment, peut-être depuis une vingtaine d'années, 30 ans maximum, qu'une partie des anciennes élites zaïdites, donc de l'imamat, s'est lancée comme ça dans un mouvement politique de revendication identitaire. Et une partie de ces élites seulement tente de rechiitiser, si vous voulez, une identité zaïdite qui a été très largement sunnisée. Au point qu'au Yémen, encore aujourd'hui, il est parfois extrêmement difficile de dire qui est zaïdite, qui est sunnite, et une partie des cadres du salafisme yéménite sont en fait des zaïdites de naissance. Ils sont nés dans des familles zaïdites et ils ne se sont pas convertis, si vous voulez, hein, mais ils ont adopté des positions salafistes.
Et votre dernier chapitre régional porte sur le Liban, où, écrivez-vous, le clivage sunnite-chiite s'est substitué au clivage musulman-chrétien, qui était le clivage le plus opératoire à la création de l'État.
Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment l'héritage de la guerre civile qui a duré de 1975 à 1990 et de l'émergence du Hezbollah. Notamment, la communauté chiite était dans l'équation politique et confessionnelle libanaise marginalisée, hein, puisque c'était les sunnites et puis les chrétiens maronites qui se partageaient le pouvoir institutionnel, notamment. Et puis, au fond, la guerre civile a permis à la communauté chiite, qui entre-temps était devenue la communauté démographiquement la plus nombreuse, eh bien de se doter comme ça d'un représentant politique extrêmement puissant qui est devenu aujourd'hui tout à fait incontournable, donc qui est le Hezbollah, qui jouit, il faut le dire, alors qui ne pénètre pas l'État, enfin qui s'est construit presque comme un État dans l'État, dans la société libanaise, et qui assume officiellement de ne pas vouloir gouverner le Liban, qu'il estime de toute façon être un pays ingouvernable et corrompu, mais en revanche ça s'applique, si vous voulez, à développer des structures para-étatiques, aussi bien militaires, culturelles, sanitaires et autres.
Et on voit désormais, avec notamment la démission du Premier ministre Hariri annoncée à Riyad, qu'au Liban, ce qui n'était pas le cas auparavant, il y a une intervention syrienne, oui, il y avait une intervention israélienne, et maintenant il y a une sorte de duel par proxy interposé entre l'Iran et l'Arabie saoudite en Iran.
Tout à fait.
Au Liban, pardon.
Oui, oui. Alors tout ça, c'est vrai que ça a contribué à la fois rendre l'équation sunnite-chiite tout à fait centrale et puis aussi à approfondir la fracture. C'était que les Syriens, au fond, avaient quand même réussi à maintenir une espèce d'équilibre entre les différentes communautés, puisqu'ils avaient leur relais.
Ils avaient été appelés par les chrétiens initialement.
Tout à fait, ils avaient été appelés par les chrétiens. C'était les relais traditionnels, c'était les patrons traditionnels des sunnites au Liban. Et ils sont devenus, ils avaient d'excellentes relations évidemment avec le Hezbollah et encore plus avec la milice et le parti politique Amal. Et c'est vrai que le fait que les Saoudiens soient devenus, au cours des années 1990, les principaux patron, on va dire, de la communauté sunnite, a fait que de nouveau, au Liban, une espèce de guerre d'influence par procuration entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, eh bien, se joue à travers les relations entre les sunnites et les chiites, notamment.
Merci Laurence Louer, je revois à la lecture de votre livre « Sunnites et chiites, une histoire politique d'une discorde ». Ça vient de paraître aux éditions de Seuil et c'est très franchement indispensable par rapport à ce que l'on entend généralement sur ce clivage. C'est à la fois très précis, très détaillé et très accessible. Merci Laurence Louer.
Merci à vous.